Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Comment se passe l'organisation d'une course et d'un marathon? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cet épisode avec mon invité du jour. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel je vous parle de course à pied, de trail, de mode de vie sportif, de comment la course à pied change notre vie tout simplement, comment elle s'est incrustée dans notre vie, comment elle nous amène à faire des choses dont on ne se pensait pas vraiment capable et qui nous amène à évoluer petit à petit pour se lancer dans des nouveaux objectifs et parfois vouloir devenir marathonien. Bah oui, vous savez, Kilomètre 42 est né de ma volonté de devenir marathonien. C'était mon projet de devenir marathonien, mon cadeau pour mes 42 ans, devenir marathonien pour mes 42 ans, ou ensuite l'année de mes 42 ans. Et peut-être vous avez vous aussi ce projet de devenir marathonien, peut-être vous avez le projet de courir ces distances-là, ou même des plus grandes distances. Et pour faire ça, pour réaliser ce genre d'objectif, pour s'inscrire à des courses, il faut des organisateurs. Et oui, des organisateurs. Et aujourd'hui, j'ai voulu donner la parole à un organisateur, parce que franchement, soyons honnêtes, ils sont indispensables pour nous. On a besoin de ces organisateurs, on a besoin des bénévoles qui les accompagnent pour organiser ces courses. Mais en ce moment, surtout dans les conditions sanitaires actuelles, c'est extrêmement compliqué pour eux. C'est déjà difficile d'organiser des courses, mais c'est encore plus compliqué pour eux pour arriver à gérer tout l'aspect sanitaire, l'aspect organisationnel, qui est très compliqué, et sans parler bien sûr de l'incertitude. Je le dis dans l'épisode, dans ma discussion avec mon invité, avec Antoine Deville. Ce matin, j'ai reçu un mail comme quoi le semi-marathon dans lequel j'étais inscrit à Feur, dans plus d'environ un mois, a été annulé. Et comme beaucoup d'autres courses, il y a beaucoup d'autres courses qui sont annulées. Mais pour l'instant, un marathon résiste, en tout cas celui-là résiste. C'est le marathon de Nevers, organisé par Antoine Deville, qui est un athlète de haut niveau, on en parle dans l'épisode, il a fait des courses, des temps vraiment qui feraient rêver en tout cas plus d'un hamster. Il est aussi entrepreneur et donc organisateur de courses. Alors, du Nevers Marathon, dont on a beaucoup parlé dans cette course-là, qui a lieu fin octobre, 24 et 25 octobre, mais aussi de beaucoup d'autres courses. Et ce que je voulais savoir, en fait, c'était comment on passe de l'athlète à l'organisateur, à l'entrepreneur, comment on passe de l'un à l'autre, pourquoi d'ailleurs il le fait, comment ça lui est venu de vouloir organiser ces courses-là, et ensuite, comment il a imaginé ces courses-là, comment il accompagnait, comment c'est financé, comment il a pensé les choses. On a parlé, par exemple, du fait que le marathon de Nevers démarre du circuit de Magny-Cours, circuit de Formule 1. On a parlé de la médaille, la fameuse médaille, un élément qui est important, et vous allez voir que la médaille n'est pas au hasard. On a parlé de la dotation, on a parlé des bénévoles, on a parlé des barrières, et puis on a aussi parlé de ses conseils en tant que coureur. On a parlé, bien entendu, de comment préparer un marathon. Est-ce qu'on peut, là maintenant, si on court régulièrement, est-ce qu'on peut se lancer sur l'aventure d'un marathon, ou est-ce que pour lui c'est un petit peu risqué? Qu'est-ce qu'il faut travailler, qu'est-ce qui est le plus important de travailler quand on se lance dans la préparation marathon? On a parlé de tout ça. Alors ça fait un épisode qui va durer environ une heure, une bonne discussion comme ça. Nous sommes partis pour pas vraiment une grande sortie longue pour un marathon, mais en tout cas une belle sortie ensemble dans lequel nous allons évoquer tous ces sujets. Mais avant de vous laisser avec mes discussions avec Antoine, je voudrais d'abord vous remercier, d'abord les patrons qui finançaient ce podcast, et vous savez à quel point c'est important parce que vous financez aussi ma nouvelle vie, la construction de ma nouvelle vie, en donnant à partir de 1€ par épisode. Ça vous donne droit à tout simplement un épisode privé du podcast. Tous les lundis, je diffuse mon journal d'entraînement, je donne mes conseils, je donne aussi un petit peu les coulisses, moi aussi, de ce podcast, de comment s'enregistrer, ce que je prépare, j'avais annoncé d'ailleurs les prochains invités. Et puis vous avez ces épisodes-là, mais sans la pub. Voilà, sans la pub, vous avez un flux où la pub est supprimée. Je voudrais aussi vous remercier tous pour vos dédicaces. J'en ai encore vu tout à l'heure sur Instagram, des dédicaces quand vous allez courir, quand vous allez que ce soit sur les pistes, sur les chemins, sur les terrains, etc. Quand vous partez courir avec le podcast dans les oreilles, quand vous me dites je vais courir avec toi Bertrand, ça me fait plaisir. Donc vous partagez ça, notamment sur Twitter et sur Instagram, avec vous mentionnez @Bertrand Soulier, mon compte Instagram personnel, où vous pouvez mentionner le hashtag KM42 podcast. Et puis moi, quand je vois passer ça, je vous félicite, je repartage, je rediffuse et je montre comment nous sommes tous heureux les uns et les autres de partir courir comme ça sur les chemins, les pistes, les routes, etc. Même si le temps en ce moment, bien sûr, devient plus compliqué, même si nous sommes sommes devenus aussi des hamsters cyclopes avec nos lampes frontales pour certains. En tout cas, nous partageons toujours ce bonheur de courir et c'est vrai que ces petites dédicaces montrent en fait un petit peu la diversité des paysages. C'est magnifique dans certains cas où vous courez et aussi parfois les difficultés de se dire des fois on est obligé de courir de nuit. Et puis, je voudrais vous remercier aussi pour vos commentaires sur Apple Podcast. Même si cette semaine, je n'ai pas eu de commentaires sur Apple Podcast, ce n'est pas grave. Je sais que vous allez vous rattraper. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous savez que les commentaires, en fait, ça aide le podcast à être découvert dans les plateformes. C'est-à-dire que, en fait, c'est la recommandation. Ça fonctionne par la recommandation comme ça. Alors, bien sûr, si vous êtes sur Spotify ou Deezer, vous ne pouvez pas le faire. Mais c'est pas grave. Vous pouvez m'envoyer un petit message. Moi, ça me fait toujours plaisir. Mais si vous êtes sur Apple Podcast, si vous avez un appareil Apple sous la main, si vous avez iTunes sous la main, n'hésitez pas à venir laisser un petit commentaire. Ça aide, en fait. Ça fait remonter dans l'algorithme. Ça montre tout simplement à Apple que, il y a plein de gens qui apprécient le podcast. C'est comme avec les petites notes, etc. Et donc, il le fait remonter et ça permet au podcast d'être découvert par plus de monde. Ça permet aussi d'aller chercher de nouveaux invités en leur montrant que nous sommes de plus en plus nombreux. Et en fait, c'est de plus en plus facile de les convaincre, tout simplement, de venir parler sur le podcast. Et bien entendu, si vous voulez prolonger la discussion, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez progresser, si vous voulez avoir de l'encouragement, avoir des conseils, apportez-vous aussi vos conseils dans une bonne humeur, dans la bienveillance. N'hésitez pas à venir rejoindre le Hamsters Running Club. C'est le club, là, comme ça, où on se retrouve pour discuter, on échange sur plein de sujets. On peut parler de matériel, on peut parler de technologie, on peut parler d'habillement, on peut parler de conseils, on peut parler de blessures, on peut parler d'alimentation, on peut parler d'objectifs, de courses, de comment on s'organise, de comment on arrive à placer la course à pied dans nos journées. Et c'est pas forcément facile. D'ailleurs, on en a parlé avec mon invité dans l'épisode du jour. Vous allez voir que c'est quelque chose dont il est conscient en lui aussi. Et voilà, donc si vous avez envie de rejoindre ce petit groupe dans la bonne humeur, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, le Hamsters Running Club. Vous verrez, il y a une application. On n'est pas sur Facebook. C'est pas sur Facebook. On est à l'abri des algorithmes. On est à l'abri de tout ça. Et toutes les discussions qui sont dans le Hamsters Running Club restent dans le Hamsters Running Club. Vous verrez, l'ambiance est sympa. Et on veille tout simplement à ce que chacun puisse progresser et échanger sur les sujets avec passion et avec vraiment en train et que comme ça on progresse tous ensemble. Mais j'en ai assez de parler pour maintenant. Il est temps de discuter, de lancer la discussion avec Antoine De Wilde. Vous allez voir, c'est un épisode qui est vraiment très 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 intéressant et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne écoute à tous. Bonjour Antoine.
Salut Bertrand, bonjour à toute la communauté.
Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors d'abord, pour commencer, on va faire les présentations, mais d'abord, moi j'ai toujours une petite question, c'est comment vas-tu et comment se passe en ce moment l'organisation des courses sur lesquelles tu es, parce que c'est quand même une période compliquée.
Alors je vais très bien, je te remercie, j'espère que pour toi aussi, t'es en pleine forme et en pleine santé, et évidemment que t'es proche aussi. Comme tu l'as dit, c'est une période qui est complexe, atypique, qu'on a encore jamais rencontré actuellement. Donc d'un point de vue privé tout va bien. Après, d'un point de vue professionnel, avec toutes les organisations que j'ai la chance et l'honneur de mettre en place, pour l'instant tout va bien, même s'il est vrai que c'est vraiment difficile à organiser aujourd'hui. Mais bon, il faut s'adapter, c'est comme ça, voilà. C'est malheureusement je pense qu'il faut faire face et qu'il faut essayer de s'adapter du mieux possible pour que les organisations soient fluides, évidemment, tout en respectant toutes les préconisations qui sont mises en place au jour le jour.
Alors, on va attaquer bien sûr par les présentations, parce que moi j'ai regardé un petit peu ta fiche de coureur avant de regarder celle d'organisateur, d'entrepreneur, qui est un peu impressionnante. Comment tu te présentes? Tu dis je suis un coureur, je suis un entrepreneur, c'est quoi le premier truc où je suis un passionné? C'est quoi le premier mot qui te vient?
Je pense que je suis un acteur du running, voilà, tout simplement. Et évidemment, j'ai un passé et un présent d'athlète aujourd'hui. Et je suis plus évidemment sur le passé que sur le futur, puisque mes années en tant qu'athlète maintenant sont plus comptées, il faut être honnête là-dessus. Et puis voilà, j'ai essayé de bâtir l'intégralité de mes activités et de mes passions autour du running. Donc oui, j'ai été champion de France de cross, j'ai été sélectionné aussi en équipe de France, j'ai gagné quelques classiques et des courses très atypiques. Voilà, moi je suis quelqu'un qui essaye de suivre vraiment ce que j'ai envie de faire et puis de faire les courses qui me plaisent sans forcément suivre un chemin tout tracé. Je pense que c'est ce qui me caractérise le plus, un coureur un peu passionné, fantasque et épicurien, voilà, si je devais me définir. Et autour de ça, j'ai la passion du running qui m'anime et j'ai essayé d'en faire évidemment toutes mes activités, ce qui me permet de travailler très dur, hein, parce que les journées sont très longues, autant d'un point de vue professionnel que d'un point de vue de ma pratique. Mais voilà, je pense que quand on est passionné, on compte pas forcément ses heures, et c'est ce qui nous fait tenir, voilà, encore aujourd'hui.
Oui, alors quand on dit course atypique, il y a moi une course quand j'en discutais avec un copain il y a quelques jours, on a regardé alors deuxième du marathon du Médoc, ça bon, ça il y a des choses comme ça qu'on voit, mais vainqueur des foulées du Gois. Alors ça quand même, on va dire un mot sur cette course-là parce que qui est pas forcément connue de tout le monde. Moi j'avais pas idée qu'il y avait une course, mais par contre j'ai passé le Gois quand j'étais gamin, quand on allait en colonie, quand j'allais en colonie à Noirmoutier. C'est quoi cette course? Alors on va en dire un mot quand même parce que dans le genre de course atypique, elle est quand même très atypique.
Oui, allez. Alors, je pense que dans mes souvenirs d'athlète, je pense que les foulées du Gois, je pense que c'est aujourd'hui le meilleur souvenir que j'ai en tant que coureur. C'est une course exceptionnelle et que j'ai eu la chance et le privilège de participer, parce que il faut savoir que c'est une course déjà, donc par histoire, c'est une course qui part de l'île de Noirmoutier jusqu'au continent par le passage du Gois. Donc, il y a 4 km à parcourir. Et à marée montante. Donc, c'est-à-dire que on est avant tout, il y a une course populaire qui se déroule l'après-midi où là c'est à marée basse. Donc, tous les coureurs peuvent courir sur le passage du Gois. Et à partir du moment où la marée monte, il y a 30 athlètes qui ont été sélectionnés, évidemment bien avant, à un certain niveau et de pays différents, et qui ont le privilège de participer à cette course. Donc, on est 30 au départ avec des numéros de dossard qui sont entre guillemets classés par rapport au niveau et au prestige de l'athlète. Moi, j'ai eu la chance d'y participer pour la première fois en 2012 parce qu'il y avait eu beaucoup de personnes qui ont décliné l'invitation. Donc, du coup, j'étais sur liste d'attente et c'est Philippe Raymond, voilà, qui est un ami de longue date et mon mentor depuis des années, qui a réussi donc à m'insérer dans cette course. Et je me souviens, la première année, j'avais le dossard 25 sur 30. Donc, c'est dire un peu le niveau qu'il y avait devant, et j'ai eu la chance de la gagner dès la première année. Avec, je crois, plus d'une minute d'avance. Donc, sur une course de 4 km, c'était assez important. Après, j'ai le bénéfice de mon gabarit qui m'aide considérablement sur ce type de course, puisqu'évidemment, plus on est grand, plus la hauteur de genou et de hanche est importante par rapport à une personne qui est plus petite. Puis j'ai une foulée qui est naturellement aérienne et ample, ce qui me permet de sortir vraiment mon pied de l'eau un petit peu plus longtemps, voilà, qu'une foulée un peu plus classique. Donc, ce qui m'a permis de remporter cette course, évidemment, une première fois, puis ensuite 3 fois suivantes. Donc, parce que j'ai gagné 4 fois cette compétition.
Oui, alors faut le dire, hein, grand gaillard de 1,92 m quand même. Hein, c'est. Je sais pas parce que moi, quand je regarde un peu dans les pelotons, etc. Si la taille a un avantage pour aller vite ou pour. Est-ce que ça, en dehors de cette course-là particulière?
Alors, dans cette course-là, évidemment, je pense que c'est indéniable. La taille a un avantage. Après, il faut être aussi un petit peu gaillard, un petit peu. Voilà, il faut pas avoir peur de l'eau, faut pas avoir peur du courant, faut pas avoir peur de tomber, puisque évidemment, si on se déporte un petit peu du chemin à côté, il y a quand même, y a un petit trou et beaucoup de cailloux dangereux. Donc, on a eu plein d'athlètes, voilà, qui se sont blessés ou qui sont tombés. Et puis, c'est très ingrat comme course parce que plus on va vite, moins on a d'eau. Il faut savoir que l'eau augmente environ de 4 à 5 cm par minute. Donc, effectivement, si on prend un départ un petit peu plus lent, on a plus de risques d'avoir beaucoup d'eau, donc d'aller moins vite et d'être freiné sur sa fin de course. Après, je pense que la taille a pas forcément d'importance majeure en termes de résultats. L'important, je pense, c'est de se sentir bien avec son corps, et naturellement, le gabarit s'adapte à une foulée naturelle que l'on doit avoir. On a des exemples très grands qui étaient, voilà, qui sont assez. Où il y a beaucoup de distance entre ces deux athlètes, pas du tout au point de vue du niveau, mais surtout au niveau de leur gabarit. C'est les duels qu'on a eus, voilà, il y a une quinzaine d'années, entre 15 et 20 ans, entre Gebrselassie et Paul Tergat. Paul Tergat, qui était un coureur très grand et très longiligne, avec Gebrselassie, qui était un coureur beaucoup plus petit. Et pour autant, ça n'a pas empêché ces deux coureurs d'être à la bataille ensemble. Donc, voilà. Je pense qu'avant tout, il faut être bien dans son corps et évidemment travailler en conséquence pour que sa foulée soit la plus économe et la plus véloce possible.
Alors aujourd'hui, on va parler d'une course qui sera beaucoup plus sèche. Hein. Enfin, il faut le souhaiter parce que s'il y a autant d'eau qu'au Gois, là, il y a vraiment un gros problème. C'est le marathon de Nevers dont tu es l'organisateur. Alors j'ai envie de dire, ça fait partie un peu des marathons, des courses un peu rescapées. Hein. On en disait, hein, c'est une année particulière. Ce matin, moi, j'ai reçu un mail comme quoi le semi-marathon de Feurs auquel j'étais inscrit était annulé et il est le 1er novembre. Hein, donc le Nevers, c'est juste le week-end d'avant, donc ça veut dire quand même que on s'inquiète pas un peu dans ces moments-là quand même quand on voit les courses qui disparaissent les unes derrière les autres.
Alors si, alors avant tout déjà, je tiens vraiment à avoir une pensée profonde pour tous les organisateurs et les personnes qui travaillent dans l'événementiel et plus particulièrement l'événementiel sportif parce que c'est une période qui est très difficile pour bon nombre d'acteurs et d'entreprises ou d'associations qui organisent des courses, donc évidemment avant tout pour les coureurs, pour créer de l'attractivité sportive. Donc là, c'est dû au Covid, c'est vraiment une période qui est très compliquée. Après, évidemment, on fait pas déjà quand on organise on fait pas trop les malins, mais encore plus sur une période comme celle-ci où voilà, chaque jour, même chaque demi-journée est comptée. On a la chance aujourd'hui d'avoir une organisation, évidemment, même si c'est la deuxième édition, qui est quand même rodée parce qu'on a beaucoup d'experts et puis de collaborateurs qui travaillent avec nous. On est en lien constant avec les différents services de l'État. Et puis, on a une configuration de course aujourd'hui qui nous permet vraiment de mettre en place un protocole sanitaire qui est très important et qui va pouvoir être respecté. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait peur aux organisateurs, au-delà évidemment du Covid, c'est de mettre en place ce protocole sanitaire. C'est aussi de rassembler son budget. On a bon nombre d'entreprises qui ont des difficultés évidemment financières. Donc du coup, toute l'enveloppe sponsoring et de partenariat est forcément aussi écourtée. Et puis voilà, après, au point de vue des commandes, quand on a un organisateur, est-ce que notre manifestation va pouvoir avoir lieu? Combien je dois commander pour les participants? C'est des choses qu'on ne peut pas faire la veille pour le lendemain, c'est strictement impossible. Donc, on a besoin vraiment de recul pour faire ces commandes-là. Donc, voilà, c'est vrai que pour un organisateur, c'est une situation qui est très, très difficile. Donc, oui, chaque jour est difficile. Après, on se bat. Je pense que le fait aussi d'avoir été et d'être athlète, on a cette capacité aussi à encaisser les mauvaises nouvelles et à s'y adapter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Nevers Marathon est toujours debout. Mais aussi, voilà, je tiens à saluer les différentes communes, les services de la préfecture et les services de l'État avec lesquels on travaille, qui sont bienveillants et auxquels on a des rapports quasi quotidiens, ce qui nous permet aujourd'hui de dire que l'événement sera maintenu. On n'est pas médium, on ne sait pas ce qu'il en sera dans 3 semaines, mais aujourd'hui, tout est mis en place pour que ça se déroule.
Oui, alors moi, on en parlait, je passais le bonjour juste avant qu'on enregistre de quelqu'un qui court avec moi, et j'en discutais avec lui, il m'a dit « Oui, mais de toute façon, avec Antoine, moi je suis sûr que ça sera maintenu parce que il est déterminé, c'est vraiment un compétiteur, et je suis sûr que lui, il va le maintenir. » Lui, voilà, bon, lui en plus, lui, il est inscrit, donc ça fait des semaines qu'il se prépare hein, pour arriver à ça. On disait, c'est le caractère de l'athlète hein, qui se traduit dans l'organisateur de la course. Hein.
Oui, c'est alors... Ça, c'est une certitude parce que quand on organise, effectivement, on doit avoir une capacité de résilience qui est importante, surtout avec les temps qui courent. Et je pense que c'est un facteur commun quand on est coureur à pied. Alors évidemment, quand on a fait certains résultats, parce qu'on n'a rien sans rien, il faut s'entraîner dur, il faut accepter la souffrance, il faut s'adapter à toute situation, et il faut être compétiteur. Après, même un coureur un petit peu lambda qui prépare des distances un petit peu dures, il a aussi cette capacité-là à s'adapter autant à l'entraînement qu'il lui a imposé qu'à sa vie professionnelle, qu'à la gestion de sa vie privée. Donc voilà, je pense que c'est des facteurs communs avec tout le monde. Après, oui, effectivement, moi, je me bats pour mon épreuve, pour le maintien de cette manifestation. Mais c'est un souhait commun. C'est un souhait commun aussi pour la ville, pour le territoire, évidemment, que cette manifestation-là puisse se dérouler. Après, au-delà de ça, on a une capacité aussi de conscience où moi, en tant qu'organisateur, je n'irai pas mettre mes participants, ni les personnes avec qui travaillent avec moi, ni mes bénévoles, dans l'insécurité et en danger. Ça, c'est une certitude. Donc maintenant, c'est à nous de trouver vraiment le juste milieu et l'équilibre sur ce qu'on est capable de faire, sur ce qui nous est autorisé. Et dans tous les cas, une certitude, c'est qu'on n'ira pas au-delà.
Alors, on va dire un mot sur cette course. Moi, il y a bien sûr ceux qui connaissent Nevers et qui connaissent le sport automobile ont vu forcément le point de départ. Alors moi j'étais persuadé que c'était l'arrivée au départ. Je sais pas pourquoi, sur le coup je me suis dit c'est l'arrivée, on arrive sur le circuit de Manicourt. Mais en fait on en part du circuit de Manicourt.
Exactement. Donc on part du circuit de Manicourt. On a déjà une épreuve équidène, donc un marathon en relais à 6 personnes qui se déroule la veille au soir en nocturne exclusivement sur le circuit de Manicourt. Donc ça c'est déjà une ambiance qui est superbe hein, avec le circuit qui est allumé et tout ça. Et le lendemain donc on a l'épreuve du marathon individuel 42 km 195 et d'une épreuve duo où on a la possibilité donc de faire 21 km avec un copain et on se passe le relais au SMI et l'autre personne donc termine le marathon. Donc on part du circuit de Manicourt, on a la chance de faire un tour entier. Et ensuite, on sort du circuit et là, on a un parcours entre la race campagne, la Nivernaise. On a aussi des passages dans des châteaux, dans le domaine du Grand Bois, dans le canal latéral à la Loire. Et ensuite, on arrive dans Nevers, voilà, qui est une ville. Donc moi, j'habite ici, je m'y investis, donc c'est une ville que j'adore et aussi qu'on a évidemment très envie de faire découvrir aux gens. Voilà, c'est aussi l'intérêt de ce Nevers Marathon.
Alors Mathieu toujours là qui a regardé les trucs, il m'a dit, je lui dis tu vas faire quoi comme temps, est-ce que tu vas faire mieux qu'à Paris, des choses comme ça. Il m'a dit ouais, je suis pas certain, les conditions, est-ce que c'est réuni. Mais par contre, tu m'as donné quand on a parlé la dernière fois une information qui est intéressante, c'est le dénivelé qui est négatif sur cette course.
Alors c'est le dénivelé donc total qui est négatif, c'est-à-dire qu'entre notre point de départ qui est le circuit Manicourt et le point d'arrivée qui est la ville de Nevers, on a 40 mètres de dénivelé négatif. C'est-à-dire que effectivement en dénivelé positif cumulé, on a environ entre 280 et 300 mètres de dénivelé négatif sur la course. Mais au final, on va descendre la 40 mètres de plus sur la totalité de notre marathon. On a des portions aussi, évidemment, avec quelques côtes. Mais comme je dis souvent, on est dans la Nièvre. On a fait avec notre territoire qu'on a sur place. Si les gens, évidemment, veulent un marathon ultra plat, pour ça, il y a Dubaï, il y a Berlin. Voilà, sur Nevers, on a d'autres avantages. Mais je pense qu'on a un parcours qui est assez varié. Les portions où il y a un peu de dénivelé positif sont mises, là, moi, en tant qu'athlète, au bon endroit. Et par contre, on a des longues portions de plats, de longs faux plats descendants. Donc, je pense que c'est un parcours qui peut générer des chronos et qui est assez, pour moi, qui est assez ludique et qui peut permettre aux coureurs vraiment de se faire plaisir. C'est très monotone hein, de courir aussi sur un parcours tout plat en longue ligne droite. On voit le parcours de Paris qui reste un parcours difficile hein, avec tous ces tunnels, etc. Et pourtant, il y a des gros chronos qui en ressortent. Donc, c'est pour dire aussi que parfois, quand on a un peu de relance, je pense que ça fait aussi du bien encore.
Oui, effectivement, parce qu'en plus, c'est vrai que les parcours, des fois, quand c'est une grande ligne droite, moi j'avais quelqu'un du club qui m'a expliqué qu'il faisait une course, il voulait faire une course en Sibérie ou je sais pas où, c'était que de la ligne droite pendant 20 bornes et retour 20 bornes. J'ai dit, mais c'est vraiment intéressant ton truc, en plus pour payer si cher que ça. Je me rappelle plus le nom de la course, mais sur le coup, ça m'avait tellement marqué. Je me suis dit, mais est-ce qu'il va vraiment aller faire ça? Alors, il n'est pas allé la faire, donc il nous a pas raconté comment ça s'était passé, mais en tout cas, moi, c'est pas le genre de truc que j'imagine comme ça. En revanche, c'est vrai que la campagne comme ça, parce que si on connaît Nevers, c'est que le circuit est quand même éloigné hein, de la ville. Hein. On ne fait pas un circuit de Formule 1 en pleine ville, à part à Monaco, qui est très particulier. Donc c'est vrai que pour les gens qui veulent faire... Alors je ne dis pas qu'on peut faire du tourisme quand même, mais c'est quand même une ambiance qui est vraiment avec... Il y a du paysage à voir, surtout si on va croiser les doigts, qu'il fasse beau. Quoi.
C'est ça, l'année dernière, on a eu une météo qui était top. Et alors... C'est vrai que quand on a mis en place ce projet-là et cette idée hein, de mettre en place un marathon sur Nevers, évidemment, quand on dit marathon de Nevers, mais comme ça, quand on le jette comme ça dans la foule, c'est pas une épreuve qui fait rêver, il faut être honnête. On n'a pas forcément envie de se dire, ouais, mon rêve ou mon objectif de l'année, c'est d'aller faire le marathon de Nevers. Donc le but vraiment, c'était de lister en fait tout ce qui faisait les points forts de notre ville et de notre département. Et de les injecter dans cette épreuve. Donc c'est pour ça qu'on a choisi évidemment le circuit de Nevers-Manicourt, donc qui est un départ de circuit. Le canal latéral à la Loire, lors de la saison d'automne, il est magnifique. Il est vraiment orangé et tout, c'est un endroit qui est magnifique. Le château du Salé, la cité du Cal avec le palais du Cal, la cathédrale, la porte de Paris, voilà, sont autant d'endroits, je pense, qui sont importants pour que le coureur puisse se faire plaisir. Et au-delà de ça, on a aussi donc le marathonien finisher aura donc une médaille en forme de volant de Formule 1 donc à son arrivée. Je pense que c'est une médaille très atypique qu'on n'a pas forcément sur d'autres marathons. Il aura aussi une faïence de Nevers qui sera mise dans son sac, une bouteille aussi de Sancerre. Voilà, donc c'est autant de choses en fait Il prendra sa navette aussi au niveau du stade du Pré-Fleury, qui est un stade donc de notre équipe de rugby, Luçonne Nevers Rugby, qui est en Pro D2. Donc voilà, il va vraiment, en mettant un pied à Nevers pendant 2 jours, voir la majorité de nos atouts du territoire. Il ne manquerait plus qu'ils viennent par le Morvan. Et là, je pense qu'on a fait le coup maximum. Donc voilà, c'était aussi le but.
Oui, alors c'est vrai que moi la médaille quand j'ai vu l'an dernier, j'ai trouvé que la médaille était vraiment super belle, hein, et sur le coup j'ai dit ah oh, bah tiens ça c'est vrai que bon, rien que pour ceux qui collectionnent les médailles, parce qu'il y en a qui aiment bien aller décrocher des belles médailles. D'ailleurs ça fait partie hein, des débats qu'il y a eu parce que le marathon de Paris cette année s'était fait un peu il y a quand même qui trouvaient que la médaille était pas très belle. Alors une fois qu'on l'a gagnée, on la trouve qu'elle est bien belle, mais quand on la voit la première fois, on est un peu déçu par rapport à d'autres. C'est un élément de communication cette médaille?
Oui, c'est carrément là un élément de com, et c'est ce qu'on a voulu nous mettre en place pour que la personne puisse se dire, voilà, j'ai fait le Nevers Marathon, qu'est-ce qui symbolise le Nevers Marathon? Alors, il y a plein de choses, mais aussi avant tout le circuit de Nevers-Manicourt, et voilà, qui a accueilli le Grand Prix de France, hein, de Formule 1 il y a quelques années. Donc on voulait aussi redonner un petit peu cette lettre de noblesse à cette infrastructure qui est extraordinaire, hein, quand... Même nous qui habitons ici, à chaque fois qu'on met un pied sur ce circuit, on est émerveillé parce que c'est vraiment quelque chose de magique. En plus, ils ont changé de bitume pendant le confinement, donc l'asphalte est neuve et du coup, voilà, c'est vraiment ça rajoute encore un petit peu plus de prestige à cette enceinte. Mais c'est vrai que la médaille, on a voulu aussi essayer de se faire démarquer, enfin de se démarquer par rapport à ce qui se faisait. Et on s'est dit voilà que la médaille en volant de Formule 1, c'était une bonne idée. Celle du Marathon Duo, c'est un compteur de voiture. Et celle donc de l'Equidène, c'est un volant de karting. Voilà, effectivement, les distances sont un peu plus courtes. Il y a un circuit de karting qui est juste à côté de Manicourt, qui est très réputé aussi. Donc on a voulu voilà jouer au point de vue de ces niveaux-là.
Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure en préparation, j'ai eu énormément de questions parce que j'ai sondé un petit peu la communauté, dire qu'est-ce que vous voulez poser comme question, et j'ai eu beaucoup de questions pour l'organisateur de la course et aussi beaucoup de questions pour ceux qui eh ben qui se disent ah, je voudrais bien devenir marathonien mais comment je fais pour préparer ça? Alors je vais scinder les deux. On va commencer par le côté organisateur quand même. Une question qui revient beaucoup finalement, c'est de se dire comment on se lance dans l'organisation d'une course comme ça. On a parlé de l'animation, de la volonté de mettre en avant le territoire, etc. Mais c'est l'idée comme ça quand on passe de l'autre côté de la barrière, c'est quoi? C'est une démarche entrepreneuriale? C'est de rendre au sport quelque chose? C'est quoi?
Alors moi, avant tout, j'ai commencé par organiser des courses il y a maintenant 7-8 ans en créant la bottine et la moustache, qui sont des courses caritatives qui ont lieu dans le monde. Ensuite, je les ai développées dans d'autres villes du département et puis au niveau régional à Beaune et ensuite à l'étranger à Marrakech. Donc je me suis entre guillemets un petit peu fait la main sur ces organisations-là, sachant que voilà, moi je suis plus un profil autodidacte que vraiment diplômé dans l'événementiel sportif et l'organisation d'événements. Moi, c'est vraiment ma passion du running, en allant sur les courses, en m'inspirant de ce qui se faisait à l'extérieur, en ayant fréquenté plus d'une quinzaine d'années le salon du running à Paris, voilà où je me suis dit, je pense qu'on a le potentiel chez nous pour organiser de belles manifestations sportives. Alors oui, il y a une démarche vraiment là, entrepreneuriale, là-dedans. Organiser une course, je pense que c'est comme faire un marathon, c'est quelque chose qui s'improvise pas. Il faut d'abord bien étudier ce qu'il est possible de faire. Et puis voilà, après, c'est comme tout, c'est un projet qui se travaille déjà au niveau administratif, puis il y a un budget à rassembler. Et puis je pense qu'il faut 1 an et demi de travail pour organiser un événement pour qu'il voit le jour. Donc c'est évidemment, c'est près de 500 jours hein, de travail. Hein. Et après, tout ce qu'on fait évidemment sur les réseaux sociaux, sur les affiches ou même via les interviews, ça c'est 1% enfin, du travail qui est demandé pour organiser un événement. Enfin, mais bien évidemment, il y a un côté beaucoup plus ingrat et beaucoup plus paperasse, entre guillemets, voilà, qu'on doit réaliser pour que l'épreuve puisse voir le jour.
Notamment oui, parce que dans les challenges, on disait bon, il y a les protocoles, etc. Mais il n'y a pas que des histoires de protocoles, parce que si on enlève le contexte virus de cette année, il y a des autorisations. Là, il y a des routes qui doivent être fermées. Il y a des à Nevers, bon, j'imagine, faut bloquer les rues. Il y a tout un tas de choses comme ça. C'est faut convaincre beaucoup de
Oui,
monde.
ça part du blocage de rue à une liste de signaleurs. Évidemment, il faut se rapprocher aussi d'un club support. Donc là, je salue la Uni Vernaise, mais aussi la SFU Sonne et tous les divers clubs du département qui nous aident sur le maintien et la mise en place de cette manifestation. Moi, je suis très honoré, c'est un honneur d'être à la tête de cette manifestation-là, mais il faut avoir conscience que seul, c'est impossible de mettre en place autant un petit qu'un grand événement. On a vraiment besoin d'être entouré et puis vraiment de coordonner et de collaborer avec d'innombrables personnes. Mais ça va évidemment, comme tu le dis, au barrage de rue. Ça va être la mise en place, évidemment, à la gestion du ravitaillement. Là, on part vraiment de tonnes d'eau hein, pour mettre en place tous les 5 km. Ça va aussi mettre en place les toilettes sèches, le barriérage, le plan de circulation, la signalétique. Enfin, je passe une centaine de points qu'il faut mettre en place pour que l'épreuve soit la plus fluide et entre guillemets la plus ergonomique pour le coureur, voilà, qu'il n'aille pas chercher trop les informations, que ça vienne à lui et qu'il se concentre juste sur sa course et qu'il se fait plaisir, quoi. C'est vraiment le mot d'ordre.
Sur une course comme ça, j'ai pas trop idée du nombre de bénévoles qui peuvent être impliqués dans une course comme ça, parce que c'est vrai qu'on pense au ravitaillement, barriérage, etc. Enfin, il y a énormément de monde finalement autour des coureurs.
Il y a un gros cocon, il y a un staff qui est très important, qui est environ de 10-12 personnes, qui va gérer tous les pôles les 3-4 jours qui vont entourer le marathon. Là, il y en a quelques-uns autour de moi, là je les salue parce qu'ils m'entendent. Et donc ça va vraiment être un pôle qui est très important, parce que ça va être eux qui vont ensuite donner et fédérer en fait mais toutes les personnes qui vont être là pendant le marathon et puis l'équidène. Après, en nombre total, si on compte les signaleurs, les 2 jours, les ravitaillements, les différents points, on est environ sur entre 240 et 250 bénévoles sur tout le week-end.
Oui, donc c'est là où on voit que c'est vraiment une très grosse organisation. On parlait des tonnes d'eau. On va parler du ravitaillement, parce que il y en a certains qui écoutent, qui vont courir le marathon, donc ils vont se poser plein de questions sur le ravitaillement. Mais on en parlera, parce que moi j'ai une question un peu là-dessus. Finalement, est-ce qu'il y a des choses que sur le parcours on n'arrive pas à faire parce que c'est techniquement impossible sur le plan de la, je sais pas, ça peut être la sécurité par rapport aux routes, par rapport à un passage. Je sais pas, au niveau d'un canal où c'est un petit peu limite pour faire passer plusieurs centaines de coureurs. Est-ce qu'il y a des choses où on se dit « Ah, j'aurais bien aimé le faire, mais je peux pas le faire
» Alors ça, c'est une bonne question. En toute honnêteté, nous, non. Parce qu'on a aussi la chance que ce soit un projet commun, l'organisation de ce marathon. On a le maire de notre ville et le président de Nevers Agglomération qui est coureur à pied, qui a participé à la première édition du marathon. Donc voilà, on a aussi un service des sports et tout un tas de collaborateurs qui sont vraiment ouverts et qui nous accompagnent dans la démarche de mise en place de cet événement-là. Et aujourd'hui, non, tout ce qu'on a souhaité mettre en place, alors évidemment, toute proportion gardée, on ne va pas faire courir les gens dans un champ ou alors sur le canal, ça sera vraiment à côté. Mais aujourd'hui, non, on peut rencontrer parfois quelques difficultés. Typiquement, là, il y a des travaux qui sont mis en place sur la ville. Donc, il y a une rue qu'on ne peut plus emprunter. Donc, il a fallu faire un remesurage qui aura lieu une dizaine de jours avant le marathon. Donc, ça, c'est des choses, voilà, mais ça fait partie aussi de l'embellissement de notre ville. Mais typiquement, on ne peut pas passer au milieu des travaux. Ça serait trop dangereux pour les coureurs. Mais sinon, objectivement, tout ce qu'on a souhaité faire, non, ça a été mis en place. Donc, c'est plutôt bien. Et je pense qu'on a un territoire qui peut permettre la mise en place d'une épreuve comme celle-ci et qui est aussi variée au niveau de son paysage. On a un endroit très technologique avec le circuit de Manicourt, très, très campagne, hein, avec tout ce qui s'entoure, et ensuite avec beaucoup de patrimoine sur l'arrivée. Donc on a vraiment trois secteurs bien distincts et je pense que c'est super pour le coureur.
Alors, moi, il y a une question quand même, je me dis, on parlait de la mesure des 42 km 195, pour arriver à tomber pile sur ces 42 km 195, on se dit, bon, je vais aller d'un point A à un point B, mais à un moment donné, il faut arriver à tomber pile là-dessus, mettre la ligne d'arrivée au bon endroit, tracer la bonne ligne tout le long, etc.
Alors, c'est vrai que là, on peut pas parler de facteur chance, mais il y a un gros travail en amont. Et puis surtout, il faut aussi que les points kilométriques, notamment 5, 10, 15, etc., tombent à des endroits un peu propices pour accueillir les stocks de ravitaillement, etc. Pour le coup, c'est vrai qu'au niveau géographique, on a eu beaucoup de chance. Le 10e kilomètre tombe pile poil devant la mairie de Manicourt. Le semi-marathon tombe pile poil au domaine du Grand Bois, qui est une bulle d'oxygène avec des cottages. Là, il y a beaucoup de place, il y a des sanitaires, des douches, etc. Donc c'est propice pour le passage de relais et pour le passage de semi. Ensuite, c'est pas forcément les 42 km qui posent problème, c'est le 195 qui pose problème. Donc nous, on avait cet avantage sur notre dernier kilomètre d'avoir un énorme boulevard sur lequel on courait et on a la possibilité de faire un demi-tour au bout de ce boulevard pour rejoindre la ligne d'arrivée. Donc on avait quand même entre 150 à 200 mètres qu'on pouvait ajuster si jamais on tombait à 42, 210 ou voilà. Donc ça nous a permis mais d'ajuster notre demi-tour et ce qui nous a permis de tomber pile poil mais à 42 km 195. Et oui, le mesurage, ça a été très très long à faire. Voilà, ça a pris une très 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 longue journée. Mais voilà, une fois que c'est fait, comme on dit, c'est plus à faire.
Oui, mais parce que c'est un élément, c'est vrai que c'est important, hein, pour en plus les courses sont homologuées, donc il faut vraiment qu'elles fassent cette distance-là, qu'on puisse comparer les temps, etc. Donc c'est quelque chose qui est pas anecdotique, hein, pour les organisateurs, qui est vraiment un point qui est vraiment central. Et puis pour ceux qui n'ont pas couru de marathon, moi sur mon premier marathon à Paris, je me rappelle que cette ligne, elle a regardé tout le long en me disant, ah, est-ce qu'il va bien me conduire au bout? Je la lâche plus du regard jusqu'au bout. Ça, c'était mon petit côté, en me disant, bah, au moins je suis sûr que je ferai pas plus de kilomètres si je la suis. C'était toujours mon truc.
C'est ça. Alors nous, il n'y aura pas cette fameuse ligne qui est à Paris. Par contre, effectivement, le marathon et l'équidème auront un label régional. Donc ça veut dire que tous les chronos qui seront réalisés, si c'est le record de la personne ou si son chrono peut être qualifiable pour quelque championnat que ce soit, ça pourra être réalisé. Il est régional en 2020 et on a sollicité le label national pour 2021. Donc pareil sur l'épreuve équidène et sur le marathon. Donc là, pour nous, c'est encore une marche supplémentaire. Dans l'objectif vraiment de développer ce Nevers Marathon et à moyen terme avoir la chance d'accueillir un championnat de France. C'est vraiment l'objectif, voilà, d'ici 2-3 ans si on en a l'opportunité.
C'est un chouette projet, hein, effectivement. Hein. C'est vrai que, comme on disait, hein, aller à Nevers pour faire une course, ça paraît pas comme ça pour beaucoup de gens, si commun que ça. C'est peut-être pas celui qui fait le plus rêver, mais quand on ajoute les petits trucs comme ça, etc., c'est un marathon qui peut faire envie à beaucoup de gens. On a parlé un petit peu de ravito tout à l'heure, hein, d'un petit mot là-dessus. Alors, pour moi, je me dis, un coureur qui organise un marathon, le ravito, il va être parfait pour nous conduire jusqu'au bout. Avec les bonnes choses sur la table, etc. Enfin, comment s'est pensé ce truc?
Oui, alors j'espère, évidemment, après le ravitaillement, ça reste propre à chacun. Ce que moi j'utilise sur les ravitaillements de longue distance est différent d'une personne B. Maintenant, le but c'est vraiment que le ravitaillement soit évidemment le plus complet possible, avec aussi un maximum d'hygiène qui soit mis en place, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en période Covid. Donc, les fameuses assiettes où on pioche la barre de céréales parmi 50 morceaux, ça ne sera pas mis en place cette année. Donc ça sera vraiment des petites portions individuelles où la personne pourra prendre dans sa propre portion individuelle, qu'on jettera et qu'on remplacera par une portion neuve pour le prochain coureur. Ça, c'est tout un tas d'adaptations qu'on a dû mettre en place pour s'adapter donc au protocole sanitaire. Idem pour l'eau, hein, il n'y aura pas de prise de gobelet, ça sera vraiment des petites bouteilles d'eau individuelles que le coureur pourra prendre et derrière jettera dans une poubelle adaptée. Le but, nous, c'est que notre ravitaillement il soit construit exactement de la même façon, avec prise de liquide, possibilité de solide au milieu et prise de liquide à la fin. Sachant qu'au début du liquide, il y a liquide en eau, ensuite il y a boisson glucidique, solide, boisson glucidique et eau. Tous les ravitaillements sont organisés de la même façon. C'est aussi prévu dans un grand mailing qui part généralement 2 jours avant l'épreuve, d'expliquer mais comment va être configuré notre ravitaillement pour que le coureur voilà, puisse savoir, bon, bah, je sais que les 5 premiers de mon ravitaillement, c'est de l'eau plate. Ensuite, j'ai de l'eau avec de la boisson glucidique, etc. Donc, c'est comme ça qu'on l'a configuré l'année dernière. Ça a plutôt bien marché. Et c'est comme ça qu'on refera cette année. Évidemment, en prenant en compte tous les retours qu'on a eus pour une première édition.
Ceux qui, parce que ça stresse un peu, ceux qui vont faire leur premier marathon sont un peu stressés, etc. Ils peuvent se dire, bon, je peux partir sans ravitaillement, j'en aurai tout le long, tous les 5 km, tous les combien ça va être le ravitaillement là?
Les ravitaillements vont être tous les 5 km. Donc il y aura du liquide et du solide aujourd'hui, si on n'a pas évidemment de restrictions majeures qui puissent arriver dans les prochaines semaines. Mais aujourd'hui, vraiment, ça a été validé de cette façon. Oui, le coureur peut partir sans ravitaillement. Après, s'il a l'habitude de prendre des gels sur la course, les gels ne seront pas fournis sur les ravitaillements. Ça sera vraiment des barres de céréales ou bananes, etc., qui seront propices pour les efforts d'endurance, bien évidemment. Mais s'il n'en a pas l'habitude, moi, je lui conseille de se ravitailler avec voilà, des produits énergétiques qu'il a utilisés durant sa préparation pour pas avoir vraiment de soucis de digestion, de soucis gastriques, et qu'il puisse vraiment l'assimiler de la meilleure des façons.
Il y a une question qui a été posée, parce qu'elle intrigue un peu les gens quand même, cette histoire du chronométrage qui intrigue un peu les gens. On se demande comment ça se passe, ce chronométrage? Il y a des sociétés spécialisées qui viennent chronométrer, c'est parce que quelqu'un qui n'a jamais organisé de course, finalement, on lui donne un dossard avec une puce, etc., puis il se préoccupe pas du tout de savoir qu'est-ce qui se passe derrière, en fait.
Alors, donc, juste derrière le dossard, évidemment, il y a une petite puce qui est affiliée directement au coureur. Donc, nous, on a la capacité, via cette puce, de savoir quel coureur va courir quelle distance et, évidemment, tous ses temps de passage. On est vraiment un marathon qui essaye de mettre le maximum de confort pour le coureur, pour qu'il puisse, évidemment, prendre plaisir, mais réussir ses objectifs. C'est-à-dire qu'il aura son temps de passage au 10e kilomètre, au semi-marathon et au 30e kilomètre. C'est quand même assez rare sur un marathon classique. Et il y aura aussi des meneurs d'allure qui seront mis en place de 3h à 5h tous les quarts d'heure. Donc ça, je pense que c'est super pour la personne qui a un objectif, qui fait son premier marathon, d'être accompagné et d'être vraiment modéré dans son allure. Le chronométrage, une fois qu'il y a un chrono donc, officiel, c'est au coup de pistolet. Et ensuite, il y a le chrono réel, c'est quand la personne passe la ligne avec son dossard. Là, il y a un petit bip qui se produit et son chrono à lui est lancé, ça lui permet d'avoir ses temps intermédiaires et évidemment au moment où il passe la ligne. Alors oui, s'il perd son dossard pendant la course, il va falloir que nous, on procède à une vision du film d'arrivée pour retrouver le coureur et évidemment le mettre au temps ensuite qui sera officiel par rapport à la grosse horloge qui sera diffusée autant sur nos ordinateurs qu'au niveau de l'arrivée.
Voilà, donc c'est toute une logistique, hein. C'est vrai qu'on n'y pense pas trop comme ça, on accroche et puis on se dit on va arriver. Une autre question qui avait été posée, je suis en train de les regarder, donc on a parlé un petit peu de la difficulté, hein. Faut des sponsors, faut financer, j'imagine c'est des financements, il y a du privé, du public, il y a un peu de... on va taper à toutes les portes dans ces cas-là, hein.
Oui, un petit peu. C'est vrai que c'est un événement voilà, qui a un budget qui est assez important. On a mettre un pied sur le circuit Nanicourt et pouvoir utiliser cette enceinte pendant 2 jours, c'est pas gratuit. C'est voilà, ça a une somme qu'on peut pas dévoiler, mais ça reste une somme à 5 chiffres. Donc forcément, pour ça, il faut arriver à équilibrer un petit peu mais là notre budget. Et puis toute la dotation participant qu'on met en place, faut savoir qu'elle est quand même importante. On a un sac, on a un maillot, on a un programme, on a un bracelet, on a une bouteille de vin, une faïence, une belle médaille, on a une paire de chaussettes aussi de la marque BV Sport, voilà, qui sera mis en place. Donc ça fait voilà, mais tout un tas de choses qu'il faut aussi financer et ce qui permet au coureur d'avoir aussi là de super souvenirs, mais aussi on a la chance d'avoir des partenaires fidèles qui sont aussi sportifs et c'est un financement qui est environ 50% de public, 50% de privé. On a un gros soutien évidemment de Nevers Agglomération, de la ville de Nevers, ça c'est une certitude, et aussi de structures privées. Je pense notamment à Textilo et à son président Régis Dumange, qui est naming du marathon, qu'on appelle donc Nevers Marathon by Plus, voilà, qu'on voit juste derrière moi, et voilà, qui est évidemment qui est un acteur et un financeur majeur du sport local. Et qui est aussi président donc de l'USON Nevers Rugby, on y revient puisque voilà, c'est le sport collectif phare donc de notre ville et on est vraiment très fiers et honorés et c'est une chance pour nous voilà, d'être accompagnés par ce personnage.
Bon, alors maintenant on va passer à la partie préparation parce que comme je disais, il y en a un paquet qui voudraient participer, il y en a certains, je sais, hein, qui sont inscrits, etc. Et qui se demandent finalement, est-ce qu'il y a des choses spécifiques par rapport à ce marathon? Alors on a parlé de l'histoire du dénivelé, hein, que c'était pas plat, qu'il y avait du dénivelé, etc. Mais qu'est-ce qu'on doit préparer? Enfin, comment on aborde un marathon? Enfin voilà, moi je me dis que quand j'ai un marathonien en face de moi, surtout qui court à ta vitesse, parce que tu vas nous rappeler ton temps sur marathon, ton record, on se dit mais on a envie de savoir comment aborder au mieux ce genre de course qui dure par définition assez longtemps et plus on court lentement, plus ça dure longtemps. Et donc c'est, on la prend pas à la légère cette course-là. Alors comment on se prépare mentalement à cette course-là?
Déjà, je pense qu'il faut avoir envie de se lancer sur l'épreuve du marathon. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit avoir en nous et on doit se dire, voilà, je pense qu'il faut qu'on en ait profondément envie. Ça, c'est la base de tout. Après, un marathon, ça ne s'improvise pas. Il nous faut quand même un petit peu de mois de préparation. Si on ne part pas de zéro, qu'on a quand même une activité physique qui est relativement régulière et qu'on a un runner qui court 2-3 fois la semaine, pour moi, une préparation de aller entre 12 et 14 semaines, ça devrait être suffisant. Après, une personne qui part de zéro, c'est-à-dire qui n'a pas fait de sport pendant 10 ans et qui part de zéro et qui se dit « voilà, moi j'ai envie de me lancer sur marathon », c'est possible, mais il va falloir un petit peu plus de temps. Là, moi j'ai quelques exemples ici, mais localement parlant, il aura fallu 6 mois pour préparer le marathon qui va se dérouler là à la fin du mois. Donc c'est possible. Par contre, évidemment, il faut tout de suite y aller très progressivement, pas faire l'erreur de runner qui est parfois un petit peu… Là, un petit peu majeur, c'est de faire le tour, une petite boucle qu'on a autour de chez lui, de 6-7 km, et de la faire tous les 3 jours un petit peu plus rapidement. Ça, c'est l'erreur majeure qu'il ne faut surtout pas faire. Et je pense qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir une fédération française d'athlétisme qui est active, et avec des clubs qui sont experts dans le domaine du running. Moi, je pousse les gens vraiment à se rapprocher de ces structures-là pour avoir des entraîneurs vraiment qui soient adéquats et qui puissent les amener progressivement. Donc, il y a une préparation qui va leur convenir déjà physiquement parlant, mais aussi en cohérence et en s'adaptant à leur vie privée. Parce qu'il y a des gens, par rapport à leur travail, par rapport à leur vie de famille, c'est évidemment des sacrifices qu'ils vont mettre en place. Et ça, je pense que c'est important de le prendre en compte, notamment au niveau de la récupération, pour ne pas se blesser et vraiment prendre plaisir. Parce que préparer un marathon, c'est dur. Le courir, c'est tout aussi dur. Mais voilà, l'aboutissement, il est exceptionnel. C'est le reflet de sa vie, un marathon. Hein. C'est un enchaînement de temps fort et de temps faible. Et au bout du compte, il faut aller au bout, quoi.
Oui. Alors, j'en profite. Je rajoute une question qui n'a pas été posée, mais qui est une question toute personnelle. C'est comment on évite de prendre le mur? Parce que c'est le grand truc. Et moi, je l'ai vécu. Donc, et puis dans le peloton, ils disaient attention au 30e, c'est là que ça commence, etc. Donc, ils mettent dans l'idée qu'on va passer le mur. Et à Paris, il est même matérialisé, le mur. L'an dernier, il était matérialisé, on passait à travers. Et c'est à ce moment-là que ça commençait à se gâter. Mais comment, finalement, c'est quoi? C'est de l'alimentation, c'est l'entraînement que finalement, il y a de certains efforts qui doivent être faits pour passer ce cap-là. Est-ce que on a des moyens de l'éviter? Alors, bien sûr, les coureurs de haut niveau, oui, pour eux, ils le passent, mais pour des coureurs qu'on entraînerait comme ça, dont tu parlais tout à l'heure, tu t'accompagnes à la préparation, je pense que ça doit les questionner, cette histoire-là, quand même.
C'est sûr, il y a un côté très, très mythique avec ce fameux mur. Alors, par expérience, moi, je l'ai pris aussi, le mur, hein, je te rassure, je l'ai pris comme il fallait. Et on dit parfois bon, alors on va le prendre et après on peut se refaire la street. Moi, je me suis jamais refait. J'ai terminé vraiment très heureusement. C'était à l'époque mon premier marathon et je pense que c'est le souvenir le plus douloureux que je puisse avoir là en termes de course à pied. Mais aussi, je pense que moi j'ai une raison à mettre avec ça, c'est que j'étais pas suffisamment bien préparé. Le marathon que j'ai le mieux préparé, où j'ai réalisé 2,28 au marathon du Médoc, donc qui n'est pas le marathon non plus le plus roulant du monde, là j'étais bien préparé, j'ai pas eu cette sensation de mur. Évidemment, j'ai une sensation de douleur et de fatigue musculaire, mais qui m'a pas forcément pénalisé au niveau chronométrique dans les allures régulières que je m'étais imposé. Avant tout, je pense que si la personne est mal préparée, évidemment elle a grande chance, ou alors va optimiser le fait de prendre ce fameux mur. Tout, je pense, à la base, est déjà question de préparation, de question évidemment de récupération, de bonne alimentation, et de répéter des allures et de bien se connaître. Ça, c'est important. Si on a fait une bonne préparation qui correspond à notre potentiel et pas avec le chrono qu'on rêverait de faire, il y a ce qu'on aimerait faire et il y a ce que notre corps est capable de faire. Sur un 5 ou un 10 km, ça peut passer. On peut avoir un jour être en très bonne forme, être bien emmené, voilà, avoir les bonnes chaussures aux pieds et du coup réaliser un bon chrono. Sur marathon, ça pardonne pas. Donc je pense qu'avant tout, c'est une question de préparation, c'est une question de progressivité justement au fur et à mesure des semaines, et évidemment de reproduire progressivement l'effort et l'allure qu'on va rencontrer mais sur le marathon. Mais évidemment, la personne qui démarre un marathon avec 3 sorties moyennement longues mais dans les jambes, oui, là au 25-30e, elle va prendre un mur parce que musculairement elle ne sera pas prête à... Là, mais cardiaquement, généralement les gens sont plutôt à l'aise, mais c'est musculairement en fait. Ça arrive, voilà, ça ne vient pas et ça arrive parce que notamment les quadriceps ne sont pas forcément préparés à porter le poids de son corps sur autant de chocs et autant de kilomètres.
Une question qui a été posée, qui est intéressante, parce que ça montre un petit peu les questions que les gens se posent sur les types d'entraînement, qui demande s'il est plus important de faire des sorties longues ou de l'allure spécifique, de l'allure qu'on veut tenir pendant la course. Alors moi j'avais une tendance à dire ben on fait les deux, on mélange les deux, mais c'est peut-être une erreur.
On peut mixer les deux. Il y a des gens qui effectivement effectuent des sorties longues et dans leurs sorties longues, qui effectuent voilà vraiment du tempo sur des allures bien précises, des 3 x 4 km, 3 x 5 km. Ça peut être une manière aussi de mixer. Il y a des gens qui font aussi des footings progressifs, qui partent tranquillement et qui progressivement se rapprochent de leur allure marathon, voire un petit peu plus vite sur les derniers kilomètres, sur les 10-12 derniers kilomètres. On a le fameux test de Dominique Chauvelier que je salue s'il écoute, ou même Philippe faisait cet exercice-là, même Benoît Z qui s'entraînait à Marseille. Les quelques semaines précédant le marathon, il y avait un test qui était bien précis où il réalisait environ 20 km à allure, plus ou moins allure soutenue, pas du tout allure marathon, mais à une allure quand même de pré-fatigue. Et ensuite un 10 ou 12 km à allure très rapide, un petit peu au-dessus de l'allure marathon, et ce qui permettait, voilà, évidemment, de les débrider et d'avoir déjà une bonne indication sur ce qui pouvait être un petit peu leur chrono final. Tout ça réalisé dans une semaine de travail. Tout entraînement spécifique qui est réalisé sur une semaine un peu isolée, il a moins de valeur que quand il est enchaîné sur de la fatigue.
C'est une. Alors d'autres questions qui sont venues là-dedans. Hein. Alors je suis en train de faire ma liste et je regarde le truc. Et on dit est-ce que quelqu'un qui court, qui a un bon volume de course, mais qui se prépare pas spécifiquement pour un marathon et qui là d'un coup il voit le marathon de Nevers et tout, il dit ah il y a Nevers marathon, je peux encore m'inscrire. Il est pas dans une prépa, mais par contre il court, il a un gros volume de course. On va dire il fait 50-60 km par semaine. Est-ce qu'il peut s'inscrire comme ça et que ça va passer, ou est-ce qu'il lui manque un petit peu quand même un petit truc?
Je pense qu'il va lui manquer un petit peu. Après, ça dépend, mais comment ces 50-60 km sont répartis. Là, 3 semaines et demie avant, ça me paraît quand même un petit peu risqué. Après, on a des profils sur qui ça passe. Évidemment, ils peinent sur les derniers kilomètres, mais ça peut passer. Mais à mon goût, ça peut aussi être un petit peu risqué s'il n'a pas quand même cibler un peu ses allures spécifiques. S'il se connaît bien et si 50-60 km, ce qui est déjà un bon volume de course pour une personne qui travaille quasiment quotidiennement, ça peut passer. Après, voilà, faut pas oublier que le marathon, ça reste long, ça reste physiquement très difficile. On peut aussi risquer une blessure, risquer aussi des soucis physiques pendant la course. Donc voilà, le but, c'est aussi de pas pousser les gens un peu dans le danger. Alors, on a des cas extrêmes, des gens qui se lancent des défis de marathoniens, qui sont pas du tout préparés, qui sont un peu en surpoids et qui parfois font des malaises sur la course et puis même parfois plus grave. Donc je pense qu'aussi c'est important de sensibiliser les gens sur le fait que c'est une distance mythique et qui se respecte et qu'on se doit se préparer. Cette personne-là peut faire un 5 ou un 10 km, peut-être même un semi, mais un marathon, il faut être plus prudent.
D'ailleurs, j'avais une autre question qui était, qui pour moi, j'ai la réponse, je vois comme ça, mais elle me dit, est-ce que 2 sorties par semaine suffisent ?
Ça peut suffire. Moi, j'ai déjà entraîné des gens qui peuvent aller au bout d'un marathon en effectuant 2 sorties la semaine. Après, évidemment, ces sorties-là, si elles peuvent être agrémentées par du renforcement musculaire à la maison, évidemment, si parfois on peut pousser par une 3e sortie ou en les cumulant, c'est-à-dire en faisant une sortie peut-être sur une VMA longue et le lendemain on va l'enchaîner par une longue sortie, ça peut reproduire déjà un effort d'endurance. C'est possible, mais pareil, c'est là on met vraiment pas énormément d'atouts dans notre jeu pour terminer quand même de bonne façon le marathon, sans forcément être un héros, mais de terminer déjà quand même dans un état correct.
Alors d'ailleurs, c'est une question qui était, mais je reviens parce qu'il y a eu beaucoup de débats à une époque sur le marathon de Paris, sur les limites horaires, avec des gens. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a une limite horaire d'ailleurs à Nevers ?
Il y a une limite horaire qui est fixée à 6 heures sur le Nevers marathon. Après, 6 heures, effectivement, au-delà, est-ce qu'on est proche de la course ? Plus on se rapproche de 7 heures. Sur le marathon du Médoc, on a une limite horaire qui doit être à 7h30, un truc comme ça, mais on peut s'arrêter 2 heures au ravitaillement. Donc c'est complètement différent. Après, je pense que c'est important aussi de sensibiliser les gens sur le marathon, ça reste une course à pied. Et si on trottine même à une allure modérée, on doit être capable de faire 5h30 ou 6h. Si on fait au-delà, c'est évidemment qu'on a eu des défaillances sur la course, ou alors qu'on alterne la marche et la course. Nous, on a une limite horaire aussi qui parfois aussi nous est imposée parce que On peut pas barrer une ville non plus pendant 3 jours. Il y a une circulation aussi qui est importante. Et puis, voilà, dans la quête aussi de certains labels au niveau de la Fédération française d'athlétisme, on doit poser un cahier des charges qui est précis et qui est carré.
Oui, c'est ce que j'ai envie de dire, parce qu'il y a des gens qui comprennent pas les limites des barrières horaires. L'autre jour, on a eu une discussion dans notre communauté du Hamsters Running Club, et avec des gens qui disaient, ben, on a pris, alors lui, c'était sur un trail, hein, qui s'est fait bloquer par les barrières horaires, qui comprennent pas trop pourquoi il y a des barrières horaires, pourquoi on laisse pas courir les gens, comme ça tout le temps. Et il faut dire qu'il y a des questions de sécurité, il y a des questions par rapport aux bénévoles, l'organisation, il y a tout un tas de questions, hein, qui sont derrière ces barrières horaires. C'est pas juste histoire de dire, on met un temps comme ça, parce qu'il faut en
Non.
mettre un, quoi, hein.
Là, on ne le met pas par plaisir, on le met parce que aussi il peut nous être préconisé ou imposé, et parce que voilà, c'est aussi important, nous, en interne, pour préserver aussi les coureurs, la sécurité aussi des riches ou aussi des voitures qui peuvent circuler un petit peu à droite à gauche. Voilà, nous, sur l'organisation générale par rapport aussi aux communes qu'on traverse, etc., la barrière horaire, en tout cas à Nevers, est effectuée à 6 heures. Il y a des marathons, c'est moins. Il y en a, c'est un peu plus. Il y en a pas. Voilà, chez nous, c'est 6 heures. L'année dernière, d'ailleurs, j'aime pas employer le mot dernier parce que je trouve ça, enfin, tellement exceptionnel qu'une personne déjà termine un marathon. Mais voilà, cette dernière personne a fait 5h58 ou 5h59 pour finir. Alors évidemment, 6h05, on l'aurait pas arrêté. Hein, on n'est pas comme ça non plus, mais. C'était exceptionnel parce que elle est passée sur une place qui est très connue chez nous à Nevers et elle devait être dans les 500 derniers mètres et il y avait déjà plein de monde qui était en terrasse, etc. Et tout le monde s'est levé pour l'applaudir, pour l'encourager. Et voilà, moi c'est vraiment l'esprit du marathon. J'encourage souvent les gens ou les partenaires à se mettre dans le dernier kilomètre d'un marathon parce qu'on voit des images qui sont exceptionnelles et je pense que voilà, ça traduit et ça laisse des souvenirs qui sont magiques pour une épreuve comme la nôtre.
Ouais, alors ça me rappelle une image très connue, un marathon, je crois, aux Pays-Bas, où la dernière avait été filmée en direct avec une arrivée avec des milliers de gens qui l'applaudissaient, qui finalement, des fois, et c'est vrai que sur l'effort, hein, c'est une discussion pour avoir, on peut se dire, l'effort, il est beaucoup plus long que sur quelqu'un qui va courir le marathon en 2h30. Quand on est parti pour 6 heures ou plus, l'effort, il est très très long et à gérer, etc. C'est aussi un exploit en soi, hein, il faut le dire, être marathonien. C'est une discussion d'ailleurs j'avais reçu Redouane d'un podcast dont il relance son podcast. Donc je suis très heureux qu'il relance son podcast, qu'il se lance dans la préparation du marathon de Paris avec un handicap, du poids, etc. Et il me disait, je ne connais personne qui est marathonien dans mon entourage. Et je lui dis, ben, moi, en dehors du club, j'en connais pas non plus des marathoniens dans mon entourage. Donc, ça reste quelque chose qui reste en soi exceptionnel, même si on a l'impression qu'il y a 40 000 personnes qui vont faire le marathon de Paris, quoi.
C'est ça, moi je suis complètement d'accord avec toi et je pense, comme tu l'as dit, peut-être encore plus pour la personne qui met 5 ou 6 heures. Évidemment, le champion qui va mettre moins de 2h30 ou moins de 2h20, etc. Alors lui, il a ce paramètre évidemment d'avoir un physique qui est un peu inné et de pouvoir courir sur ces allures-là. Mais entre guillemets, il est préparé pour courir sur ces allures-là. Donc oui, il souffre comme tout le monde, mais il souffre peut-être moins longtemps, il est peut-être mieux préparé. Donc il a plus entre guillemets à se soucier de réaliser un chrono et un souci de place. La personne qui est quand même moins préparée, qui est en surpoids, qui a aussi voilà plein de choses à gérer au quotidien, pour moi elle a autant de mérite voire plus que la personne évidemment qui va remporter la course. Et évidemment on assiste à des scènes qui sont magiques et je pense que le marathon est une épreuve extraordinaire réservée aux gens ordinaires.
C'était une belle formule, effectivement. Nous, il y en a plein, hein. C'est vrai que moi, c'était mon cadeau de mes 42 ans. Courir un marathon, c'était le truc. Mais on est plein à vouloir le faire, hein, cette histoire
Voilà.
de choses. Ça aurait presque pu être Nevers, hein, en fait, je le dis. Mais chercher un marathon il y a 2 ans. Donc Nevers n'existait pas encore à l'époque. Sinon, c'était pas très loin pour moi. Et je m'étais blessé de toute façon dans la préparation de mon premier marathon. Donc c'est ce qui a donné naissance à Kilomètre 42 et tout un tas de péripéties que les gens connaissent bien. Mais en tout cas, c'est vrai que ça fait partie des trucs dans lesquels on va se dire, bah, un jour, j'ai envie de tenter cette expérience-là, de voir ce que ça donne. Et ceux qui courent un petit peu au départ se rendent pas compte, hein, que finalement, c'est beaucoup plus accessible qu'ils le pensent. Mais par contre, il faut, j'ai envie de dire, beaucoup de discipline quand même dans cette histoire-là.
Oui, la course à pied, c'est très ingrat, hein, comme effort et comme discipline, ça c'est une certitude. Et puis, effectivement, quand on démarre, c'est très dur tout de suite. On est criblé de courbatures, etc. Mais on progresse aussi très vite, on s'affine aussi très vite, et je pense que si on met voilà, une méthodologie en place au niveau de son alimentation, de sa récupération, je pense que tout le monde est capable de faire de bons résultats et surtout de se faire plaisir. Et évidemment, l'appétit vient en mangeant, hein, quand les personnes commencent à courir, font quelques kilomètres, puis 5, puis 10, puis dire, ah, le SMI, je vais pas y arriver, puis quelques mois après, ils s'inscrivent, puis après, voilà, c'est l'étape marathon. Donc je pense que tout vient naturellement. Et ouais, c'est une belle démarche. Je pense que c'est une belle démarche personnelle, mais aussi qui sert dans la vie d'un homme ou d'une femme. Après, voilà, je pense au quotidien cette démarche d'entreprendre un 42 km.
Bah d'ailleurs, on va faire un petit lien comme ça avec l'entrepreneuriat, parce que on a parlé finalement la carrière un peu côté coureur, hein, avec un peu les temps, etc. On a parlé du marathon. T'as d'autres activités en fait, c'est-à-dire que tu fais pas que ça en fait, t'as plein d'autres choses encore à côté.
Oui, donc on organise évidemment donc là les événements que je t'ai cités, un événement qui est à l'automne avec le Nevers Marathon by Plus, un événement à Marrakech au mois de mars, ça va être la troisième édition là, en 2021, et puis aussi donc on a donc ça c'est la French Run événement, on a la French Run Academy qui permet donc d'encadrer des gens dans leur perte de poids, dans leur préparation marathon, dans leur remise en forme, etc. Donc on a tout un panel de gens avec des programmes d'entraînement qui sont sur mesure et personnalisés. On équipe aussi des gens au niveau textile, au niveau de leurs chaussures, parce que bien souvent les gens qui arrivent, qui commencent une remise en forme ou une activité sportive, sont mal équipés au niveau chaussures et ça amplifie le fait qu'ils puissent se blesser et qu'ils puissent ensuite avoir des problèmes. Donc on a vraiment une paire de chaussures et plusieurs qui sont adaptées à leur profil de course. Et on a aussi la French Run Boutique qui va donc voir le jour. Donc on a une boutique en ligne qu'on peut retrouver sur www.lafrenchrun.com et évidemment une boutique physique qui va voir le jour à Nevers, dans le centre-ville de Nevers, qui va être donc un spécialiste running et qu'on va ouvrir mi-novembre. Donc voilà, ça fait beaucoup d'activités. Évidemment, on n'a pas le temps de s'ennuyer, mais voilà, il y a une vraie synergie entre toutes ces activités. Si moi, Bertrand, je suis amené à t'entraîner, forcément, si je t'entraîne, bah, tu vas venir t'équiper à la boutique. Et si tu es entraîné et équipé, bah, tu viendras participer aussi à nos événements. Donc voilà, le but, c'était de créer une synergie qui soit autour, évidemment, du running, mais aussi de la pratique de l'activité physique.
Ouais, alors moi je suis un peu chiant à entraîner parce que moi je veux aller vite et le problème c'est que je suis un hamster lent en fait. Alors on me dit oui, t'es pas si lent que ça, etc. Mais quand t'as perdu 30 kilos comme moi dans ta vie, il y a un moment donné, il y a des choses que tu continues à traîner et puis voilà, il y a le passé, mon âge, etc. qui fait que j'arrive pas à aller aussi vite que je veux. Je me rêve en coureur rapide, tu vois. Et c'est pour ça que quand je regarde un petit peu les temps, je me dis oh, 29,34 sur 10 km, je me dis waouh, qu'est-ce que ça doit faire de courir à cette allure-là. Mon copain de camarade de club qui court en le marathon en 2,55 et 54, on le regarde, on dit waouh, quelle vitesse il court, etc. À quel point on peut progresser vraiment en course à pied? C'est la question que je me pose, parce que quand tu parles d'entraînement, etc., quand tu as quelqu'un qui vient comme ça, qui est en surpoids, etc., quels sont les facteurs qui peuvent bloquer la progression d'un coureur? Ou est-ce que finalement, il n'y a pas vraiment de facteurs bloquants? Enfin, c'est une question un peu compliquée à répondre, mais elle m'intéresse un peu pour moi, pour savoir ce que je peux viser.
Pour moi, si vraiment une personne veut progresser, la règle numéro une, c'est la discipline. C'est-à-dire qu'il doit vraiment respecter les entraînements qui sont mis en place, faire attention à sa récupération, évidemment s'il a des soins à mettre en place, faire attention évidemment à son alimentation et suivre vraiment un protocole d'entraînement qui va être adapté forcément à ses capacités, à ses objectifs, mais aussi à son train de vie. Si tout ça est mis bout à bout, si déborde pas, alors oui, on peut se faire plaisir. Moi, le premier, voilà, ça m'arrive de me faire plaisir. Je pense que c'est important non plus de pas être dans les extrêmes. Mais je pense que si tout ça est mis bout à bout, évidemment, ici, il n'a pas la limite d'âge, parce qu'on progresse bien plus vite à 25 ans que quand on en a 55. Donc voilà, je pense que ça aussi, c'est important. Et quand on a trouvé le juste équilibre, forcément, ce travail-là. Et voilà, mais tout ce protocole athlétique mène à une progression, c'est une certitude.
D'accord. Bon, alors j'ai de l'espoir, donc je vais garder mon espoir de progrès. J'avais pour finir quelques questions à la volée, tu vois, comme ça, c'est on va dire, on va essayer de répondre un peu rapidement. Sur un ravito, à quoi tu carbures, toi?
Moi, je prends plus de l'eau et des gels. Enfin, voilà, des gels que j'ai déjà testés à l'entraînement et qui me conviennent bien. Voilà, moi, c'est plus à ça. pas forcément à la boisson glucidique, mais plus de l'eau et plus des gels.
Ta boisson de récup préférée?
Alors moi, j'ai la chance d'être accompagné par Oxitis depuis des années. Donc évidemment, il y a des boissons de récupération qui sont mises en place et aussi des petites barres, des petites pâtes de fruits pour la récupération qui sont très bien. Dans les boissons de récup, il y a tout ce qui est à la vanille, au goût coca, etc. Donc voilà, qui rappelle un petit peu cette sensation de sucre aussi qu'on peut avoir après avoir couru. Et puis après, le classique du classique, hein, c'est la ceinture ou l'eau pétillante, voilà, parfois tout au long de la journée, qui permet bien évidemment de récupérer ou d'accentuer un petit peu plus sa récupération.
Il y a une question qui se pose, c'est est-ce que la bière aide à récupérer ou est-ce que tu n'as pas testé en fait?
Moi j'ai testé évidemment et je pense qu'il n'y a pas non plus de mal à se faire plaisir. Après, on parle vraiment de récupération avec la bière par rapport à la levure de bière, je crois, si ma mémoire est bonne, ce qui en contient très très peu hein, dans une bière. Mais voilà, je pense que c'est important de ne pas se frustrer et si on a envie de prendre une bière après l'entraînement ou après une compétition, voilà, il faut pas je pense qu'il ne faut pas gêner pour autant. En prendre 20, c'est un autre débat, mais se faire plaisir avec une bière parce qu'on s'est bien entraîné ou qu'on a réalisé un bon chrono, moi j'encourage les gens à le faire. Une, hein, évidemment.
Oui, bien sûr, avec modération. Hein, et la bouteille de vin qui est dans le pack du coureur, c'est après, hein, c'est pas avant ou pendant. Hein. J'avais une question sur c'est un vrai débat qu'il y a sur les montres, parce que il y a des coureurs qui sont très connectés, très branchés, et des coureurs qui sont plus sensations. Alors, plutôt branchés ou plutôt sensations?
Alors, j'ai démarré sensations parce que j'ai l'impression d'être un dinosaure quand je parle, hein, mais quand j'ai démarré vraiment la course à pied jeune, il n'y avait pas de montre connectée. On avait juste un chrono, voilà, et nous, on devait courir 50 minutes, une heure, ou etc. Donc, on courait vraiment là à la sensation. Puis évidemment, toutes les montres connectées sont arrivées. Évidemment, je suis très montre connectée. J'aime bien évidemment toutes les applications Strava que j'utilise et évidemment Garmin, etc. Je trouve ça évidemment très pointu. Mais ça casse le côté instinctif que doit avoir, je pense, le coureur à pied et que moi, je retrouve maintenant de plus en plus parce que je pense que j'ai un petit peu plus d'âge, j'ai un petit peu plus d'expérience. Je me connais aussi un petit peu mieux. Et je pense que ça fait du bien aussi de courir un petit peu aux sensations et puis de pas se fixer un peu sur l'allure. On a tous été, si on a un footing de 10 bornes à faire, à 9,85, de faire 2-3 fois le tour de son parking pour arriver à 10,00. Voilà, on en devient quand même un petit peu barjo, mais on est tous comme ça, moi le premier. Hein, donc voilà. Après, je pense que il faut pas oublier le côté instinctif du coureur. Moi, je suis un crossman, hein. Je suis un crossman à la base, et c'est ce qui me plaît en cross, c'est vraiment la bataille avec évidemment la qualité du parcours, mais aussi la concurrence qu'il y a à côté et se connaître soi-même. Donc, je pense que c'est important de garder ça.
Alors, d'ailleurs, c'est un très bon truc. Les crosses, alors, je ne sais pas ce qui va être organisé cette année, mais on va rentrer, on approche de la période des crosses, hein, qui devraient normalement commencer. Tu recommandes aux gens de faire des crosses, quelqu'un qui fait de la route ou qui comme ça, tu dirais, va voir ce que c'est le cross, tu vas voir encore autre chose.
Alors moi, oui, à 200%, parce que j'ai eu la chance hein, d'être champion de France de cross en junior devant Maïdine Mekissi. Et moi, c'est une discipline vraiment. Je pense que si j'en avais en choisir une et si où j'étais vraiment le plus productif, ça serait cette discipline-là. Et puis, je pense que c'est le cross-country. Je pense que c'est le père de l'athlétisme. C'est-à-dire que n'importe quelle discipline, je pense que une saison de cross-country ou un ou deux cross, c'est important par rapport évidemment, par rapport au dépassement de soi, par rapport à son mental et par rapport aux conditions climatiques qu'on va rencontrer. Oui, le cross, c'est très dur. Mais dans ces difficultés-là, je pense qu'on peut prendre aussi beaucoup de plaisir. Et surtout, si on a des objectifs estivaux, après, en termes de marathon, de course sur piste ou sur route, je pense qu'une préparation hivernale à base de cross-country est vraiment propice à la préparation générale et au renforcement voilà, qu'on va avoir besoin derrière pour bifurquer sur la période d'été.
Oui, alors moi j'ai fait du cross, j'ai découvert le cross l'an dernier. J'ai redécouvert hein, presque parce qu'on en fait quand on est jeune du cross finalement, c'est les cross du collège, l'école, tous les cross comme ça, puis on l'oublie après.
Et on le délaisse un petit peu après quand on est adulte et on s'oriente peut-être plus vers le trail ou etc. Après c'est sûr qu'arriver un dimanche quand il pleut, mettre des pointes, être trempé, être plein de boue, je pense que quand on est c'est pas quelque chose qui nous attire d'entrée, alors que quand on est jeune, en fait, on a que ça, donc on est obligé de s'orienter sur ça. Mais Moi, pour moi, je pousse vraiment les gens à. C'est une discipline noble et qui est magnifique et je pense qu'elle est aussi voilà, très, très productive pour le cours à pied. Ouais.
Oui, et puis moi l'an dernier, j'ai regardé ceux qui ont gagné les courses, les crosses, hein, dans mon coin. Et ben c'était tous ceux qui étaient aussi dans les meilleurs, tout simplement à la fin sur les autres courses, etc. Parce que c'est aussi comme ça qu'ils préparent leur saison estivale, qu'ils préparent tout un tas de disciplines et qu'ils les préparent aussi sur ces périodes-là. Bon, et ben je pense qu'on a fait un très bon tour de la question, hein. On a vu, on sait maintenant à quoi s'attendre si on veut aller faire le marathon de Nevers. Les inscriptions sont encore ouvertes, hein?
Les inscriptions sont encore ouvertes, voilà, et enfin, évidemment, on les contrôle quasiment d'heure en heure et on est en lien aussi avec la préfecture de la Nièvre. Voilà, à un moment donné, je pense qu'on n'ira pas forcément au bout des inscriptions jusqu'au 24 octobre. Je pense qu'on fermera avant, évidemment par souci de sécurité, mais aussi par souci de gestion. Donc forcément, j'encourage les gens, s'ils veulent participer à notre épreuve, qu'ils n'attendent pas trop et pas le dernier moment. Parce que même pour un organisateur, il n'y a rien de pire qu'une personne qui s'inscrit sur place. Voilà, c'est toujours très difficile à gérer et les commandes de dernière minute coûtent évidemment beaucoup plus cher que celles qu'on a nous anticipées. Donc évidemment, mais toutes les personnes sont les bienvenues à participer à notre épreuve, évidemment, mais cette année, mais aussi les années qui suivent. S'ils ne sont pas marathoniens, moi je les invite à venir découvrir notre beau département et notre belle ville. Voilà, ils seront bien accueillis et je pense que c'est un territoire qui mérite d'être vu.
Oui, et puis aussi, tant qu'ils y sont, ils regarderont aussi les autres courses, hein, comme parce qu'on parlait de la bottine, les choses comme ça, qui sont des courses caritatives aussi. Un peu précurseur d'ailleurs, hein, la course pour Rome, hein, parce que finalement, maintenant, il en voit plus, mais à l'époque, elle était quand même très en avance, j'ai envie de dire, celle-là. Hein.
Ouais, il y en avait peu, voire pas, mais qui était organisé. Je pense que c'était important d'offrir un événement un petit peu similaire, mais pour les hommes, et pour sensibiliser aussi de l'opinion publique sur les maladies masculines. Donc c'est pour ça qu'on a créé la moustache. Et du coup, c'était un week-end qui s'accordait très bien entre la bottine et la moustache, qui fait évidemment partir des événements la majeure de notre département, avec courir à Nevers aussi, mais aussi le Morvan Oxygen Trail, le dernier Homme Debout, etc. Et tout un tas de manifestations qui ont lieu dans notre département voilà, qui sont super sympas voilà, à participer.
Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Antoine. On va juste dire où est-ce qu'on retrouve, parce qu'il y a un compte Instagram, il y a bien sûr un site internet. C'est quoi les adresses de tout ça?
Alors, on peut être suivi évidemment sur les réseaux sociaux avec le arrobase Nevers Marathon, donc sur Twitter, Instagram et Facebook. On peut suivre aussi donc toute l'organisation et toute la structure de la French Run, donc autant événements, académie que la boutique sur arrobase la French Run, pareil Twitter, Facebook et Instagram. Les personnes qui nous verront pas le jour du marathon pourront évidemment nous retrouver physiquement parlant à la boutique qui se tiendra en centre-ville de Nevers à partir environ de mi-novembre. Donc, on sera situé au 10 Place Saint-Sébastien à Nevers. Et évidemment, toutes les infos par rapport au marathon sont sur notre site internet www.neversmarathon.com et les gens peuvent évidemment nous contacter par mail bonjour@neversmarathon.com ou alors sur notre ligne de téléphone qu'il y a directement sur le site internet.
Et ben voilà, et ben comme ça, on sait tout. Si on veut venir en accompagnateur, en spectateur, en coureur, on a tous les trucs. Je recommande aussi à ceux qui ne connaissent pas l'équidène. Hein, moi, j'ai fait un équidène une année. C'est vraiment un chouette format hein, avec les relais, etc. C'est de l'équipe. Hein, d'habitude, on court seul et là, on court en équipe. C'est vraiment un chouette format et c'est vrai que sur circuit, en plus, c'est vraiment un privilège de tourner sur un circuit de Formule 1 comme ça. Et donc, je vous recommande aussi de jeter un œil pour ceux d'ailleurs bah, qui sont pas prêts à faire un 42 mais qui pourraient trouver une petite équipe pour faire des relais de 6 ou 10 km les uns les autres.
Exactement, c'est une première marche après pour se lancer sur des distances plus longues, voilà, pour l'année suivante. En tout cas, moi, Bertrand, je te remercie beaucoup pour cet échange qui aura duré quasiment plus d'une heure. Et puis voilà, de t'avoir rencontré virtuellement. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer, toi et toute ta communauté, évidemment, sur un événement running, évidemment à Nevers, mais aussi pourquoi pas à l'extérieur. Donc,
Oui,
bonne attention à toi.
eh ben on fera un congrès des hamsters, hein, du Hamster Running Club l'an prochain sur le marathon. Je suis certain, et je suis certain, tu vois, qu'il y a des gens qui auront envie hein, de venir chercher une médaille, une belle médaille en forme de volant ou de je sais pas quoi, parce que ils auront aussi découvert hein, les personnalités qu'il y a derrière aussi l'organisation, parce qu'on n'y pense pas assez, hein, on voit pas tout ce qu'il y a derrière, et c'est pour ça que je tenais vraiment à faire cet épisode. Merci à toi en tout cas pour tous ces conseils et pour tous ces détails, et ben très bonne fin d'organisation de cette course, hein, parce que là, c'est la dernière ligne droite quand même.
Dernière ligne droite, on est au 42e, au niveau de l'orgueil, il reste 195 mètres, donc voilà, il faut rester droit, bien tenir la barre et aller au bout. Mais je te remercie beaucoup, et puis voilà, je donne rendez-vous donc du coup dans quelques semaines à toute la communauté running qui va venir nous rendre visite ici à Nevers.
Eh bien, merci beaucoup, et très bonne fin de participation, d'organisation de tout ça. Ciao, ciao.
Merci. Super, ciao.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.